Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein. Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein. Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein.
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bien cette émission, elle n'est pas en direct. Cette semaine, la Chine, faut-il en avoir peur? Avant d'évoquer la Chine avec Pascal Navarro, merci à vous tous, les auditeurs, les auditrices, pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos suggestions. Merci à vous qui êtes fidèles au poste et au podcast. Cause Commune, une radio associative et libre. Cette année, on projette de construire un deuxième studio pour que vous puissiez venir y créer vos émissions, vos podcasts, un espace associatif avec des tarifs associatifs. Parce que vous aussi, vous avez forcément des choses à dire, et ben on vous aidera. Venez, on vous aidera à les produire et les diffuser. Contactez-nous. Ma réflexion du jour, un retour sur ce dernier week-end du mois d'août. Deux salles, deux ambiances, ou plutôt deux espaces, deux engouements bien différents. Le même week-end, entre le 27 et le 31 août, se sont tenus deux événements d'outdoor majeurs en France. En théorie majeurs, oui, en pratique, je ne suis pas sûr. L'UTMB d'un côté, de l'autre, l'étape de la Coupe du Monde de VTT au Gey. Le VTT accueille environ, d'après les organisateurs, 50 000 personnes, 50 000 spectateurs. L'UTMB, d'après les organisateurs, environ 100 000, voire un peu plus. L'UTMB a les honneurs dans les JT, le VTT dans Stade 2. Deux événements, plusieurs réflexions. La montagne, après l'or blanc, des événements qui précipitent la disparition justement de l'or blanc. Le running, le trail, l'ultra-trail, bien plus inspirant, populaire que le VTT, le gravel ou l'ultra-distance. De l'inspiration du running aussi pour le vélo, une marque qui nous titille, Satisfy. Quand le vélo se veut chic avec une marque presque iconique telle que Rafa, le running se veut punk et badass avec une marque telle que Satisfy. Des différences qui s'expliquent par le prix d'entrée de l'équipement quand on peut s'équiper pour partir sur une épreuve de l'UTMB pour environ 1 500 euros. Dans le vélo, à 1 500 euros, t'as même pas une paire de roues. La sécurité, quand on court aussi en forêt, le week-end, on roule sur la route, que risque-t-on en tombant, en courant le week-end et en roulant? Ces explications sont-elles suffisantes? Pourquoi l'un, l'UTMB est un phénomène de société quand la Coupe du Monde des Jets, ou encore les Gravelman Series ou les Race Across restent des événements relativement anecdotiques? Évidemment, hein, si les organisateurs m'écoutent, ils me diront « mais non, le succès est là ». En tout cas, l'impact médiatique et populaire de l'UTMB est sans commune mesure que ces organisations. Et si vous me dites « il faut comparer ce qui est comparable », qu'en France, on a les Tours de France qui ont un impact médiatique et populaire bien au-delà de l'UTMB, je vous répondrai « soit ». C'est vrai. Sauf que les Tours de France sont des événements auxquels seuls les pros peuvent participer, quand l'UTMB est ouvert aux amateurs. Et ce point explique peut-être aussi la différence de popularité entre la Coupe du Monde des Jets et l'UTMB. Soit aussi. Soit. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va en Chine. Comment se positionner face à l'industrie chinoise? Faut-il en avoir peur? Et comment se positionner sur le marché chinois? Quelle place pour les marques européennes, françaises, historiques, auprès du consommateur chinois? Aujourd'hui, on va plutôt explorer la Chine comme un terreau d'opportunités. Dans les Échos, par exemple, on peut lire que la Chine est le premier marché international de Brompton. Qu'en est-il pour une marque française comme Look? Comment aborde-t-elle ce marché? Comment s'adapte-t-elle? J'ai avec moi Pascal Navarro. Il est Export Area Manager, notamment en charge de ce marché chinois. Et à partir de l'exemple de Lou, on va tenter d'explorer les bonnes pratiques pour réussir son pari, se faire une place sur le marché chinois. Bonjour Pascal, merci infiniment d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Bonjour Jérôme, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, et ravi de pouvoir participer aujourd'hui à ce podcast.
Et ben ravi, moi,
à cette émission.
Ouais, ravi de vous avoir aussi, parce que c'est au départ, c'est ce que je disais, c'est un message sur LinkedIn qui me donne envie de vous écouter quand vous annoncez l'ouverture de votre 11e boutique en Chine. Vous avez aujourd'hui 11 boutiques là-bas?
Alors oui, on a la chance d'avoir un partenaire historique avec lequel on a démarré le business il y a plusieurs années. Et ce partenaire historique est en train de monter en puissance avec évidemment un soutien et une présence de la marque, de Look. À la suite en fait de l'épisode de Covid, il y a eu un vrai engouement pour la pratique du vélo en Chine. Et on profite en fait de cet engouement pour surfer sur la vague, comme on dit. Et
alors quand même, pour bien repositionner, peut-être Pascal, vous me disiez, vous êtes Export Area Manager, vous avez la Chine notamment comme marché, mais vous n'avez pas que la Chine, hein.
Oui, j'ai une grande région qui s'appelle l'Asie-Pacifique, qui est assez commune dans le développement des business. Et donc, avec un base camp à Taïwan, donc c'est mon point de chute où, depuis Taïwan, je rayonne sur toute cette grande région qui va de l'Australie, Nouvelle-Zélande, jusqu'à la Chine, en intégrant la Corée, Taïwan, la Thaïlande et bien d'autres pays d'Asie. Asie.
Moi, je m'attendais presque à parler à quelqu'un qui s'occupait que du marché chinois. C'est pertinent aujourd'hui pour une organisation comme Look d'avoir une... Enfin, vous êtes tout seul ?
Oui, alors tout seul, évidemment, non pas tout seul, parce qu'il y a toute une organisation derrière et notre siège en Europe,
ouais.
Pour moi, donc, est un soutien important. Mais après, par rapport au pilotage local et par rapport à la mission, oui, je suis tout seul, mais sans l'être également, parce que j'ai tout un réseau de partenaires local,
ouais.
Dans chaque pays,
ouais.
Voire régional,
ouais.
Qui me permet en fait d'avoir un vrai soutien de développement.
Ouais, au fait, vous avez des distributeurs locaux qui, eux, sont installés dans le marché et qui s'occupent de la, on va dire, la road to market de vos marques.
Exactement,
ouais.
Exactement. Et donc, une des grandes parties de ma mission, c'est d'animer en fait tout ce réseau-là, de les soutenir et de les aider en fait à positionner la marque de la meilleure façon possible, que ce soit commercialement, au niveau du marketing, de la communication et puis bien d'autres missions.
Alors, on va se concentrer, si vous voulez bien, quand même sur la Chine. Mais encore une fois, aujourd'hui, allez. La Chine, dont vous avez 11 boutiques, c'est votre plus gros marché ?
C'est notre plus gros marché en Asie et un marché en croissance. Alors on entend beaucoup de choses par rapport à la Chine avec une économie en demi-teinte,
oui.
En train de se tasser un petit peu. Il y a probablement une partie de vérité, mais sur des postes comme l'immobilier ou des consommations plutôt élevées.
Oui.
Après, sur de la consommation, on va dire quotidienne, et en particulier donc l'outdoor, dans votre introduction, vous en parliez, le trail également est en plein boom sur le marché chinois.
Oui.
Donc l'outdoor est une activité aujourd'hui qui attire de plus en plus de Chinois, et on le voit au quotidien avec des organisations, avec des gens qui pratiquent, avec des gens qui s'entraînent quotidiennement. Donc il y a un vrai
oui.
engouement pour tous les sports outdoor.
Et après, c'est un peu ce que vous dites, oui, aussi ici en France, on est au courant que l'économie chinoise, notamment l'immobilier, se porte pas à merveille, mais d'un autre côté, on parle de classe moyenne chinoise qui est de plus en plus nombreuse et de plus en plus riche, entre guillemets. Justement, une marque comme Look, elle est positionnée comment en Chine ? C'est une marque de luxe, c'est une marque accessible. Comment vous vous positionnez en termes de prix et d'image aussi ?
Alors évidemment, donc on fait partie de la partie premium,
ouais.
De l'offre,
ouais.
Mais nous ne sommes pas les seuls. Et la plupart de nos concurrents internationaux sont évidemment sur le même segment de marché qui, en fait, oui, aujourd'hui, attire de plus en plus de monde. Et comme vous l'avez évoqué, on a une classe moyenne qui est en train de monter en puissance. Quand on fait un ratio, on comprend assez vite que sur 1,5 milliard, même un pourcentage modeste, on va dire, de cette population qui s'intéresse au sport outdoor et qui a envie de rouler sur du beau matériel, pour le vélo en particulier, pour nous, c'est un cœur de marché intéressant.
Ouais.
Et en plus, nous sommes français, il y a une vraie cote d'amour, mais qui est historique sur d'autres consommations et d'autres produits, hein, pas uniquement dans le vélo, qui fait que notre reconnaissance en tant qu'identité et marque française est très très forte.
Oui. Et c'est justement aussi ce qu'on peut voir sur votre profil LinkedIn, sur votre fil LinkedIn, The Art of Cycling à la française. C'est écrit comme ça, donc le à la française est un vrai levier, est un vrai asset de la marque.
Oui, bien sûr, pas uniquement en Chine,
ouais.
Mais évidemment en Asie globalement, mais même partout dans le monde. C'est une signature qui effectivement tout de suite permet d'identifier l'origine et le positionnement de la marque et des produits.
Ouais. Et justement, comment est-ce qu'on peut aborder alors c'est un peu, je dirais, le rôle pour le coup de votre distributeur. Comment est-ce qu'on aborde la Chine, le marché chinois ? Est-ce qu'on l'aborde d'une manière globale, comme un marché unique, ou c'est une somme de différentes régions et cultures ?
Alors c'est une très bonne question. Effectivement, le marché est très éclaté parce
ouais.
que donc il y a des fonctionnements donc assez étatiques, on va dire,
ouais.
dans les organisations.
Okay.
Et voilà. Même si donc le privé et les entrepreneurs existent en Chine, il y a quand même toujours un petit peu une logique en fait de régionalisation. Alors déjà ça part d'en haut, ça part de tout en haut de l'État,
oui.
Mais après oui, c'est très organisé de manière étatique, même pour la partie business. Juste pour resituer en fait comment on est arrivé nous en Chine, c'est pas d'hier, mais ça remonte quasiment au début de l'histoire de la marque dans le vélo,
oui.
avec donc notre distributeur qui s'est impliqué très fortement sur l'univers de la piste.
Oui.
Donc la piste est un des segments de marché sur lequel on est extrêmement présent et on a une vraie reconnaissance et une légitimité internationale.
Oui, vous avez quelques médailles olympiques.
Voilà, entre autres, et dont la Chine. Ouais. L'équipe de Chine féminine a glané et a ramené l'or au pays à plusieurs reprises. Donc, notre distributeur a commencé à développer le business à travers la piste et l'activité, on va dire, plus sportive.
Ouais.
Et ça a permis, en fait, de rayonner et d'avoir une visibilité de la marque et une reconnaissance, en fait, de notre marque via notre logo, qui est très reconnaissable aussi avec des couleurs ouais. iconiques. La Chine, donc, a toujours été importante. Et cette reconnaissance via les médailles qui ont été glanées par les équipes nationales chinoises dans les événements championnats du monde et Jeux olympiques font que la marque est tout de suite identifiée et reconnue, en particulier dans l'univers du cycle.
Ouais. Donc vous êtes, en fait, mais c'est intéressant, c'était un point que je voulais aborder en deuxième partie, mais on peut l'aborder tout de suite. Pareil, au niveau des pratiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vélo en Chine, il y a, j'imagine, beaucoup de vélos au quotidien sur lesquels vous n'êtes pas très présent, vous, Luke, mais il y a la piste qui est là, votre clé d'entrée il y a des années, au départ de Luke, et même aujourd'hui, et ensuite la route, le gravel, le VTT. C'est quoi les pratiques et quel est le vélo le plus vendu chez vous là-bas?
Alors aujourd'hui, évidemment, c'est le vélo de route qui a pris le lead ouais. sur la demande. Il se passe un phénomène donc qui a aussi eu le même type d'engouement dans les pays périphériques d'Asie du Sud-Est. C'est que le vélo est un peu le nouveau golf.
Ouais.
C'est statutaire. Donc en fait, utiliser une marque internationale iconique, alors que ce soit nous ou nos concurrents, hein, c'est pouvoir montrer en fait qu'on a atteint un certain statut et que donc quand on se regroupe les fins de semaine pour aller rouler autour de Century Park à Shanghai dans des groupes ride comme on les appelle en fait c'est bien de pouvoir montrer qu'on a un beau vélo, qu'on a un vélo d'une marque internationale. Et avant, on faisait peut-être du golf, ou pour les femmes, par exemple, on faisait du fitness ou du yoga. D'ailleurs, très important, il y a une montée en puissance de la pratique des femmes en Chine, et voire en Asie, qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu, nous, en Europe, en termes de développement.
Intéressant. Mais alors ça veut dire aussi, j'imagine, alors c'est une question, je suis désolé si elle choque les uns ou les autres, j'imagine aussi qu'il faut adapter les tailles de vos cadres, parce que je crois que le chinois moyen est un peu plus petit que le français moyen ou l'européen moyen, et si en plus vous avez encore plus de femmes, c'est-à-dire que vous travaillez sur une gamme de produits un peu différente ?
Oui et non. Certaines marques le font. Donc, il y a une marque taïwanaise très très connue qui a créé même une marque parallèle pour répondre juste exclusivement à la clientèle féminine.
Ouais.
Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le parti en fait de ne pas séparer en fait la pratique entre ces messieurs et ces mesdames, voilà, entre ces genres, mais effectivement de descendre nos courbes de taille. Et pour la première fois, on a lancé un vélo donc qui est notre flagship, hein, qui est utilisé par la Cofidis, notre équipe professionnelle.
Le 795.
Voilà, le Blade RS, qui est accessible au public, hein, dans les mêmes conditions que les professionnels. C'est pas un vélo différent. C'est le vélo qu'on peut retrouver chez le meilleur détaillant look du coin. C'est exactement le même que l'équipe professionnelle va utiliser. Donc, pour revenir sur le sujet des femmes, on a pris la décision pour la première fois, donc, avec ce modèle-là, il y a 3 ans, quand on l'a lancé, de descendre jusqu'à la taille double XS, qui permet justement de répondre à une utilisation de gens qui sont peut-être pas forcément très très grands. En tout cas, à partir d'un mètre cinquante, aujourd'hui, on a la capacité de faire un bike fitting et de positionner quelqu'un sur un Blade RS. Voilà.
Oui, d'accord. Donc ça veut dire que, en France, on pourrait mettre nos enfants sur des Blade RS.
Presque. on va attendre qu'il soit grand adolescent quand
même. Et puis de gagner un peu plus de sous. Ça fait 15 minutes qu'on se parle, Pascal. Je vous propose de faire une pause musicale. On reviendra après. J'ai encore plein de questions. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Pascal Navarro, qui est, je pense, à Taïwan actuellement. Vous écoutez Rayon Libre. Pascal Navarro, il est Area Export Manager pour la marque Look Cycle. Il s'occupe notamment du marché chinois et on parle de ce marché-là. Vous êtes sur Cause Commune 93.fm, un Rayon Libre qui voyage, qui se pose la question. La Chine, faut-il en avoir peur ou voir ce marché comme une opportunité? On va s'écouter Sugar on My Tongue de Tyler the Creator et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Hey, hey. Hey, hey. Hey. like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Tell the bitches that you know that you heard about me. Tell your mama, tell your mama, tell your daddy, tell your daddy, tell the world. That slice of cream, is it your birthday? I got a brush, give me a wallet, I'll pay. Don't need no air, I stay down there till I say, girl, I'm dead. Tell your mama, tell them what. Tell your mama, tell your daddy, tell them what. Tell your daddy, tell your mama, tell your mama, tell your daddy, tell your daddy. Like sugar on my you wanna be my friend, you wanna give me up, you never be my den. I wanna take you down, you wanna be my den, no, 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 no.
Voilà, retour, vous écoutez Rayon Libre. Si Tyler, The Creator, comme il le dit, comme du sucre sur ma langue, moi je bois du petit lait en discutant avec Pascal Navarro, Area Export Manager pour l'entreprise Luxcycle. Pascal, j'ai une autre question qui me taraude là depuis un petit moment. Vous confiez votre marque, vous parliez un tout petit peu avant de communication, vous confiez votre marque à un distributeur local. Comment est-ce que vous faites pour être certain que la communication mise en place par votre distributeur, elle respecte le ton, le discours de la marque? Vous parlez, vous écrivez le mandarin?
Alors, non, effectivement, je ne parle pas le mandarin, mais par contre, dans toutes les organisations avec lesquelles je suis en interaction, ouais, il y a toujours un minima une, voire deux, trois personnes qui maîtrisent l'anglais. Ouais. Donc forcément, déjà, ça facilite la communication et la transmission des informations. On est extrêmement actif pour créer du feed depuis notre siège en Europe, ouais, et en France en particulier, et alimenter les besoins, parce qu'en fait, on va aussi localement adapter la communication. On parle pas de la même manière à un Australien, un Américain ou un Brésilien qu'on parle à un Chinois, ouais, ou un Coréen. Ouais. Donc, on fait du contenu extrêmement qualitatif, on crée du contenu, que ce soit de la vidéo, de l'image, voire même du texte. Et chacun de mes distributeurs, chacun de mes partenaires va, à partir de ce feed qu'on va partager et sur lequel il va avoir accès, pour recréer localement les besoins qui vont lui permettre d'avoir une prise de parole percutante, pertinente, en fonction de la région dans laquelle ils sont.
Et puis via les bons réseaux, parce que typiquement en France ou en Chine, Instagram, vous l'avez pas, par exemple.
Exactement, exactement. Ouais. Alors ils ont leur propre réseau, c'est extrêmement fermé, hein, bien, ouais, évidemment. Il y a l'équivalent d'Instagram, par exemple, on va l'appeler Redbook, ouais, en Chine. Voilà, donc c'est à peu près le même type de contenu et de partage qui se fait. C'est le réseau social numéro un et très tendance, ouais, qui va permettre de, pour nous, en tant que marque, avoir une capacité de communiquer et de pouvoir parler à un auditoire qui va comprendre en fait ce qu'on a envie de lui faire passer comme message, ouais, et qui va derrière être intéressé peut-être à découvrir plus, donc à se rendre dans une boutique look pour potentiellement faire un achat final, ouais, d'un vélo look.
Et puis j'imagine aussi, enfin quand je vous pose la question, j'imagine que la réponse la plus simple, c'est aussi il y a une question de confiance. Ça fait longtemps que vous travaillez avec vos distributeurs, ils savent ce que vous faites, vous leur faites confiance, vous les acculturez sur la marque Look. Et après, l'idée c'est aussi quand on confie sa marque, c'est de leur faire confiance. C'est eux les spécialistes et les experts du marché.
Absolument. Ouais. On a toujours essayé de construire un réseau de distribution sur le long terme. Ouais. C'est le leitmotiv, parce qu'évidemment, de travailler sur de la distance et du long terme, ça permet de construire et de mettre en place un certain nombre de choses dans la continuité. Ouais. Alors après, voilà, il y a parfois des ajustements qui sont nécessaires pour différentes raisons, commerciales ou évolution du business. Mais la plupart de nos distributeurs, en tout cas sur nos marchés principaux, il y a une vraie continuité dans le temps. Ouais. Et on a des gens qui ont démarré avec nous bien avant les années 2000, dans les premières années où on a créé, en fait, puisque Look a inventé la pédale automatique, pour mes mots. Dans les années 80, on a des gens qui sont encore avec nous. L'Australie, par exemple, est un exemple, alors que c'est quand même quasiment aux antipodes de la France, un des marchés les plus éloignés. Ouais. Notre distributeur historique australien a démarré, en fait, avec la première pédale automatique. On fête nos 40 ans, d'ailleurs, cette année, de la première victoire
de Bernard Hinault, voilà, avec la fameuse pédale automatique. J'ai une autre question, deux autres questions qui, alors ça fait peut-être, les auditeurs vont se dire, mais ça manque un peu de fil rouge, tout ça, mais c'est pas très grave. Il me semble que là, on va parler un peu de logistique et de production. Il me semble que certains de vos cadres sont produits en Tunisie, d'autres en Asie. En termes de logistique, comment est-ce que vous fonctionnez? Vos cadres qui sont produits en Asie, ils reviennent à Nevers, ils sont mis en carton et préassemblés et ils repartent en Asie? Ou en termes logistiques, vous avez une sorte de chemin direct?
Évidemment, on va essayer sur les produits, parce que la totalité de nos gammes n'est pas produite en Asie, mais une petite partie. Évidemment, on va être quand même assez respectueux donc de notre empreinte carbone. Ouais. Et ces produits-là ne vont pas partir en France. Ouais. Ils vont être directement redispatchés sur l'Asie.
Donc ça veut dire qu'il faut aussi des hubs de logistique et des hubs de montage sur place?
Oui, avec des partenaires spécialisés justement sur la partie logistique, stockage et réexpédition. Des partenaires aussi assez historiques pour nous, donc avec lesquels c'est extrêmement fluide de travailler. Ouais. Et donc ça se passe très très bien.
J'imagine aussi, alors vous avez abordé un peu le sujet, on va l'effleurer, j'imagine aussi que distribuer en Chine, il y a évidemment des enjeux politiques, de taxes dans un sens ou dans l'autre. Comment est-ce que l'entreprise Look, elle gère ce risque?
Alors, on n'a pas eu vraiment d'impact jusqu'à présent sur des fluctuations de taxation ou en tout cas de mesures coercitives. Ouais. Et ça se passe généralement très très bien. On a aussi, voilà, de toute façon sur place, des gens qui sont extrêmement expérimentés et qui ont toujours bien géré en fait cette partie de taxation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive plus ou moins, malgré donc les niveaux de taxation qui sont pas extrêmement élevés de toute façon, à avoir des prix publics conseillés qui sont assez proches de ce qu'on peut avoir en recommandation sur d'autres marchés. Donc un consommateur chinois ne va pas être lésé par rapport à un consommateur dans une autre partie du monde sur son achat final.
Ouais. On parle un peu plus de marque et de stratégie. Alors, je vous demande pas de nous dévoiler votre plan d'action et votre stratégie, mais comment est-ce que, quand on s'appelle Look Cycle, on crée de l'attraction et de la notoriété sur une marque en Chine? Est-ce que, par exemple, le Tour de France et équiper une équipe qui y participe, ça aide beaucoup?
Alors, c'est important. C'est important parce qu'en termes de visibilité, évidemment, le Tour de France où en ce moment il y a la Vuelta, tous ces grands événements internationaux ont extrêmement d'exposition et de visibilité. Ouais. Et bien sûr, une partie de la clientèle, mais c'est pas la totalité de la clientèle, la partie, on va dire, la plus sportive, est attentive à ce qui se fait dans le peloton et à quels produits les gens vont avoir référence dans leur pratique. Par contre, toute la partie émergente de pratiquants que j'évoquais tout à l'heure, qui viennent d'autres univers, ils sont plus dans une approche lifestyle. Ouais. Et donc, c'est pas forcément le fait d'avoir une équipe professionnelle qui va légitimer, en fait, la présence ou le développement de la marque. C'est plus d'être, entre guillemets, tendance, avec une offre de produits peut-être attractive, peut-être créative. Il y a différentes options d'aborder le marché. Mais c'est surtout d'avoir une attention, en fait, d'offrir une expérience plutôt que uniquement un produit extrêmement compétitif, ouais, qui est le cas hein, en l'occurrence, ouais, mais pas que.
Ouais. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim parce qu'on est quasiment terminé, on a quasiment terminé. Chers auditeurs, chers auditrices, on est avec Pascal Navarro, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Pascal Navarro, il est Area Export Manager pour Luxcycle. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim, on se retrouve dans 3 minutes. Avant de lancer la chronique, vous avez un peu de temps pour y réfléchir, Pascal. C'est une question un peu plus personnelle que j'ai envie de vous poser, c'est vous, quand vous allez en Chine, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Vous avez le temps de la chronique d'Abel pour y réfléchir. En attendant, on s'écoute Abel et on se retrouve dans 3 minutes. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Lorsqu'on se promène sur les réseaux sociaux, que l'on lit, écoute ou regarde les médias, on trouve souvent des reportages ou des messages de cyclistes se plaignant de la mauvaise qualité et ou de la trop faible quantité des aménagements cyclables. Il faut dire qu'on trouve aussi des messages ou reportages se plaignant qu'on en fait trop pour le vélo. Il y a bien sûr des exagérations de part et d'autre. Une des phrases qu'on lit et entend le plus souvent de la part des cyclistes, c'est « Il y a un bel aménagement cyclable jusqu'à cet endroit, mais tout d'un coup plus rien, il s'arrête sans raison au milieu de nulle part ». Et à partir de là, on se retrouve avec la circulation motorisée dont la portion de piste construite avait permis de nous séparer jusque-là. Ça me rappelle les temps anciens de la constitution du réseau autoroutier français. Il était courant d'entendre dire que la France, à l'inverse de ses voisins l'Italie du Nord et l'Allemagne, ne comportait que très peu d'autoroutes, juste quelques courts tronçons en sortie de grandes agglomérations. Et puis à partir des années 60, la construction d'autoroutes s'est accélérée en France, les réseaux se développant à un rythme soutenu. Mais on entendait souvent les automobilistes se plaindre d'avoir pris un superbe tronçon d'autoroute, mais que celle-ci s'arrêtait sans raison au milieu de nulle part, et qu'à partir de là, on devait reprendre l'horrible route nationale que le tronçon construit avait permis d'éviter jusque-là, avec en prime un gigantesque embouteillage à cet endroit. Il en a été de même lors de la construction du boulevard périphérique à Paris. Le premier tronçon avait été construit pour rassembler et diffuser les véhicules en provenance de ou se dirigeant vers l'autoroute A6, mais ce tronçon avait une fin à l'est comme à l'ouest, obligeant l'automobiliste à reprendre le boulevard des Maréchaux que le périphérique leur avait permis d'éviter jusque-là, avec en prime là aussi un gigantesque embouteillage. Le périphérique a ensuite été prolongé de chaque côté par tronçons successifs, chaque fois vers une nouvelle porte de Paris, les récriminations des riverains de cet endroit au sujet des embouteillages créés, remplaçant celles des riverains du précédent terminus de l'autoroute urbaine. Et ainsi de suite pendant une quinzaine d'années à diverses portes parisiennes, jusqu'à ce que les prolongements de part et d'autre du tronçon initial se rejoignent au nord de Paris. Alors oui, c'est le revers de la médaille de l'accession du vélo au rang de mode de transport reconnu pour lequel on réalise des aménagements pendant de nombreuses années encore. Tant qu'un réseau maillant significativement tout Paris ne sera pas encore construit, beaucoup d'aménagements cyclables s'arrêteront sans raison au milieu de nulle part. Car lorsqu'une piste cyclable dont on s'est plaint qu'elle s'arrête à un endroit est enfin prolongée au grand bonheur des cyclistes, elle l'est jusqu'à un autre point où elle sera tout aussi nette qu'à l'endroit précédent, il se trouvera alors bien d'autres cyclistes pour, tout logiquement, s'étonner et se plaindre de cette piste cyclable qui s'arrête sans raison au milieu de nulle part. À lundi prochain.
Merci beaucoup Abel, c'est la fin de Rayon Libre, où nous sommes avec Pascal Navarro, donc Area Export Manager chez Luxcycle. Avant la chronique d'Abel, je vous posais la question, Pascal, quand vous allez en Chine, qu'est-ce qui vous impressionne le plus ?
Je peux résumer en un mot, ça va être très très simple et compréhensible par tout le monde. Modernité.
Oui.
La modernité, mais à tous les niveaux. Ils ont fait des efforts énormes et je suis pas pro-chinois pour prêcher que la Chine est le meilleur pays du monde, mais une réflexion que des gens me font qui vont en Chine depuis très très longtemps, c'est que ils arrivent donc à Pékin ou à Shanghai. Se balader aujourd'hui dans une grande métropole comme Pékin ou Shanghai, on se fait la réflexion, mais c'est quand même assez silencieux. On entend les oiseaux qui sont sur les arbres en train de chanter.
Merci beaucoup Pascal pour vos mots. Auditeurs, auditrices, ça y est, hein, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et peut-être que la croissance du vélo français, elle va passer aussi par un marché chinois. Merci beaucoup Pascal de nous avoir un peu éclairé. Peut-être qu'il y a une carte à jouer pour nos fabricants français, nos artisans français, de se dire, allez, on saute, qu'on s'intéresse à ce marché là. Restez sur 93.fm, Cause Commune. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires. Bonne semaine à tous.
Merci Jérôme pour cette invitation.